nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Malheureusement, le propriétaire loue à n'importe qui maintenant. L'immeuble se dégrade, bien entendu. Que voulez-vous? Il y a même une famille d'ouvriers. Pour un immeuble convenable, c'est un comble. Et en plus de ça, ils nous demandent des loyers de plus en plus chers. Et cela fait 15 ans que l'on doit nous faire des réparations. Rien n'est fait. Et tout se dégrade. Pour ne pas vivre dans un taudis, j'étais obligé de refaire faire chez moi. Et dire que l'on paye un loyer, c'est un comble. Mais je vais me plaindre à la mairie. Là, j'ai des amis. Il faudra bien que le propriétaire fasse quelque chose. Elle regarde bien Pauline et lui dit « Et vous ? Vous avez bien l'air perlotte. Vous venez d'une soirée, pieds nus, ici. » C'est une maison convenable. Vous m'avez dit que vous alliez emménager, mais je n'ai pas vu votre emménagement. Elle regarde bien chalandré. C'est votre ami? Il est sale, lui aussi. Je ne vous félicite pas. Vous avez de drôles de goûts. De mon temps, les jeunes filles choisissaient des hommes, des vrais, pas des freluquets. Qu'est-ce que vous allez en faire avec de ça? En tout cas, il faudra vous tenir comme il faut, tous les deux. J'espère que vous n'en avez pas plusieurs de ce genre. Allez, bonsoir. Il se fait tard. Elle rentre chez elle. Une fois qu'elle est fermée à la porte, le frère et la sœur descendent les escaliers. Au rez-de-chaussée, ils trouvent la porte d'entrée qui est restée ouverte et se trouve dans la rue. Charles-André lui dit comme pour ne pas nous faire remarquer, comme nous sommes sales et toi sans chaussures, prenons un fiacre. Il marche un moment dans les rues. Elle, un fiacre qui passe. Et il s'engouffre dedans. Direction l'hôtel. Avant d'entrer dans sa chambre, Pauline dit à son frère « Demain matin, nous partons. » Il lui demande « Pour aller où ?»« Retourner à Saint-Tropez, après nous verrons. » Il lui dit « Oui, c'est ça, nous verrons. » Il lui demande « Quoi, tu ?»«
Rien. Tout est bien. Nous partons. Nous quittons tout ça. Plus tard. Bonne nuit. »
Et ils entrent dans leur chambre. Le lendemain matin, ils font leurs bagages et ils vont voir le concierge pour lui dire qu'ils désirent partir à l'instant.
Bien, je vais vous présenter votre note.
Jean-André lui dit, nous allons à la salle à manger, prendre notre petit déjeuner. Ils y vont. Il y a foule. On leur présente une table et s'assoivent. Commande le petit déjeuner.
Jean-André lui demande « Pourquoi ne partons-nous pas tout de suite en Italie ?»
Elle lui répond
« Tu n'as pas fait ton régiment. La douane peut nous arrêter. »
Et puis, il y a eu le meurtre. Il lui dit « C'est vrai, le meurtre.
Sans compter les autres. »
Je ne pourrai jamais te pardonner d'avoir fait ce que tu as fait à Adrienne. Elle lui dit,
si je l'ai fait, c'est parce que je t'aime.
Oui, c'est pour nous.
Il lui dit sèchement,
c'est ça.
Mais moi je l'aimais.
Elle lui dit, je t'en prie,
parlons plus de ça, surtout pas ici.
Il lui répond,
c'est ça, nous sommes liés, unis,
dans le même guépier. Même destin. Après le petit déjeuner, et avoir payé l'hôtel, ils sont partis à la gare et pris leur train. Durant tout le trajet, ils ne se parlent pas. Arrivés à Saint-Tropez, épuisés, démoralisés, après s'être changés et fait toilette dans leur chambre, ils se retrouvent au salon.
Jean-André fait les 100 pas nerveusement, les mains dans les poches. Apolline est assise qui le regarde. Il dit « Je voyage à Paris, quel fiasco !» Et dire que nous sommes là, au lieu de nous enfuir, que les gendarmes risquent de venir d'un moment à l'autre. Elle lui dit, personne ne nous a vus. Il hoche les épaules. Et au restaurant, les domestiques, le cocher. Elle lui dit, la tête baissée, ils ne savent pas qui nous sommes. Il lui dit, et dire que tout ça, c'est ta faute. Ils n'auraient pas cherché à nous faire chanter si tu n'avais pas fait ce que tu as fait. Elle lui répond, c'est de la tienne aussi. C'est toi qui as sympathisé avec lui en premier. Il hausse ses épaules. Parce que j'aimais Adrienne, tu la tues. Comment tu t'es procuré le poison? C'est Mathilde qui me l'a donné et expliqué. Et pourquoi tu as fait ça? Il s'arrête de marcher et la regarde. J'étais affreusement déprimé. Je ne voulais pas que tu sois à une autre. Puis Mathilde m'a dit qu'Adrienne allait t'accaparer tout entière, que je ne te reverrai plus. J'étais tellement déprimé que j'ai paniqué. Il lui demande, tu n'as pas eu le moindre remords? Non, le remords, je ne sais pas ce que c'est. Il lui dit, mais te rendais-tu compte que j'allais souffrir de cette mort? Pas vraiment. J'ai même senti que tu étais consentant, ou plutôt que tu avais compris. Il lui dit, je sais, je ne pouvais pas faire autrement. Du moment que l'essentiel était fait, il fallait finir. Alors pourquoi cette scène? Alors que tu savais, j'ai pas osé t'en parler, mais là, j'en ai eu la force. Et il demande, qu'allons-nous faire? Elle lui dit, oublier et partir. Il lui dit, pour aller où? Elle lui dit, je ne sais pas. Mais nous pourrions peut-être rester ici. Allons faire nos bagages et partir si tu veux. Il lui dit, allons Monte Carlo. Elle lui dit, mais que ferons-nous là-bas? Il n'y a rien. Il lui dit, on trouvera bien quelque chose. Alors c'est vous? Elle lui répond, avec toi, la vie, c'est un jeu d'enfant. Oui. Ils ont fait leurs bagages, mangé un morceau, rangé la maison, rendu la clé et parti. Ils ont pris un fiacre en début d'après-midi, ont longé la mer. Charles-André lui dit, tu comprends, Monte-Carlo, c'est pas la France. Ce n'est qu'une petite principauté, sans de vrais gardes-frontières. Comme ça, ils ne nous demanderont pas les papiers. Arrivé, Apolline lui dit, la vie est affreusement chère ici. Ils ont marché, portant chacun une valise et se sont enfoncés dans la ville. Puis, sont entrés dans un petit café. Je suis assis au top.
Commander deux cafés et on demandait à la servante si elle ne connaissait pas un petit appartement à louer. J'ai mon oncle qui a un deux pièces. Cela vous va ? Apolline lui dit. Oui. Où ? À l'autre bout de la rue. Venez voir. Elle se lève et vont devant la vitrine. Elle leur montre. La maison un peu rose tout au bout de la rue. Vous demanderez Monsieur Raffiani. Il habite au deuxième étage. Ils la remercient et s'en vont. La maison est une vieille maison sans âge, dit-il, de trois étages. Elle est étroite et qu'elle s'alliait de pierres tournant. Il y a deux appartements par allée. Deuxième, ils vont frapper à l'appartement de M. Raffiani. Leur a ouvert un homme de taille moyenne, un peu fort, dans les 50 ans, en pantalon et maillot de corps.
Vous désirez ?
Jean-André lui dit. La personne qui tient le café dans la rue un peu plus loin nous a dit que vous aviez à louer un appartement. Cela nous intéresse. M. Raffiani les regarde et leur dit « C'est un petit deux pièces et c'est à payer un mois à l'avance. Cela vous va ?»«
Oui. » »«
Bien, je vais vous montrer. » Il les quitte pour aller chercher des clés et revient avec les clés. Puis sort de l'appartement.
« Suivez-moi. »
Il les fait monter à l'étage et va ouvrir la porte de droite.
Entrez. Ils entrent.
Il leur dit, petit couloir, à droite une pièce et à gauche l'autre. En plus un cabinet de toilette et une cuisine. Le frère et la sœur regardent. C'est pas très grand. Il y a de grandes fenêtres. Les murs sont recouverts de tapisseries claires. Les meubles sont simples, mais corrects. Les deux pièces sont meublées, une en chambre, l'autre en séjour. Apolline dit à son frère, « Heureusement que le lit est grand. » La cuisine est minuscule, mais il y a de tout. Cabinet de toilette et dans un placard. C'est une table de toilette, un bureau et une bassine. L'homme demande, « Cela vous va ?» Jean-André lui demande, « C'est combien ?» L'homme donne un prix. Jean-André regarde sa sœur et fait signe que oui. « C'est bon. » Sœur Raffiani lui dit, « J'ai signé le papier chez moi. » Ils ont quitté l'appartement pour aller dans l'appartement du propriétaire. Ils ont mené à son séjour. Avant de signer, il demande « Vos papiers, s'il vous plaît. » Apolline lui donne les siens. Charles-André fait de même. « Bien, l'argent. » Apolline sort son argent de son sac. Une heure plus tard, ils sont chez eux. En faisant le lit, Apolline demande « Ça n'attendit pas que nous couchions ensemble ?» Il lui répond « Certainement pas. Je coucherai au salon. » Elle lui dit « Ne fais pas l'hypocrite. Cela faisait depuis longtemps que tu le savais et tu n'as rien dit. Et continuez à vivre avec moi. Ne tout de même pas tout le temps nous faire la tête.
Si tu crois que ça a été de gaieté de cœur que je l'ai fait, surtout qu'elle m'était assez sympathique. La pauvre, si tu ne l'avais pas aimée, nous aurions été bonnes amies. Charles-André n'en croit pas ses oreilles et lui dit « Tu te rends compte de l'énormité que tu viens de dire ? D'après toi, c'est tout naturel qu'une sœur tue l'ami de son frère ?» Et l'autre aux épaules et lui dit « Je ne dis pas ça. Et puis, pour moi, tu es si peu mon frère. Nous avons fait tellement de choses ensemble. »
Elle a fini de faire son lit. Va ouvrir la fenêtre pour aérer.
Elle est retournée vers lui et lui dit « Je suis pour rien si je t'aime. » Il lui dit « Je suis coupable. C'est de ma faute. Si tu t'es attaché à moi. » Paul a eu raison de dire que nous n'aurions pas dû enfreindre les lois. Elle lui demande « Tu le regrettes ?»« Oui. » Elle lui dit « Eh bien, moi non. Et si tu le regrettes, c'est que tu ne m'aimes plus. »
Elle sort de la chambre. Il la suit. Elle entre dans le salon. Ouvre les fenêtres.
Tu es couché sur le divan ? Oui. Et il ajoute : tâchons de vivre en bonne entente, qu'un frère et sœur, rien de plus. Elle hausse les épaules et lui dit « Ça vaut mieux qu'en rien. Je cherchais les draps. » Et elle sort de la pièce. Grâce à l'argent qu'ils ont, ils peuvent vivre quelques jours tranquilles. Mais il faudra rapidement trouver du travail. Charles-André, un matin, apprend par la serveuse du café qu'une école privée cherche un jeune homme pour des études du soir. Il lui avait dit qu'il cherchait du travail. La serveuse lui dit « Il y a un hic, c'est que vous n'êtes pas monégasque. Allez-y tout de même, voilà l'adresse. » Elle lui donne un papier. Il y va de suite. L'établissement se trouve dans une petite rue bourgeoise, bien propre. C'est une grande bâtisse en pierre rosée du 18e. Il sonne. C'est le petit lycée Grimaldi.
Vous désirez, monsieur ?
Je viens me présenter pour la place de surveillant des études.
Bien, entrez.
Charles-André entre.
Suivez-moi.
Le petit homme lui fait traverser une petite cour pavée qui a une fontaine au milieu. La cour est entourée de bâtiments. Il les mène à un de ces bâtiments. Va ouvrir une porte.
Suivez-moi, s'il vous plaît.
Il se trouve dans une allée. Il fait monter les escaliers de pierre. Premier étage, il va frapper à une porte.
Entrez. Concierge entre. Bureau sort. Entrez, monsieur. Charles-André entre.
«
Charles André est entré dans une grande pièce, un peu sombre malgré la fenêtre, mais elle donne sur des branches d'arbres. C'est un bureau, une grande table devant la fenêtre, une bibliothèque sur le mur de droite. Les chaises des visiteurs se trouvent en retrait. Les personnes qui sont au bureau, ils ne la voient pas bien, car elle est à contre-jour. C'est une femme, en robe stricte marine. Elle semble mince et grande. Ses cheveux sont en chignon. Quelques mèches volent et montrent qu'elle est blonde. Le visage, il ne peut la voir.
« Bonjour, monsieur. Vous êtes venu pour la place de surveillant ? Asseyez-vous, je vous en prie. »
Il trouve sa voix pas désagréable. Une voix qui semble encore jeune.
Vous voulez avoir une place de surveillant. J'aimerais savoir si vous avez déjà exercé ce travail.
Non, madame.
Que faisiez-vous?
Durant mes études et après, j'ai écrit quelques nouvelles et je viens de finir un roman. Le roman n'a pas encore été édité, mais mes nouvelles ont trouvé un certain succès dans le milieu intellectuel parisien. Elle lui dit,
« Cela est très intéressant. Moi-même, j'écris quelques poèmes et nouvelles qui sont édités dans une petite revue littéraire. Mais pourquoi ne pas continuer à écrire à Paris ?
Parce que il faut vivre, madame. Il faut de l'argent. » Elle soupire et lui dit,
« Je comprends. Puisque moi-même... Mais nous sommes à Monte-Carlo, ce n'est pas Paris, hélas. Que vous avez de la chance d'avoir habité cette ville. »
Elle soupire et lui dit,
« Bien, pour ce qui est de ce poste, vous aurez beaucoup d'heures libres. Comme cela, ça vous permettra de continuer à écrire. Vous vous occuperez d'enfants entre 12 et 15 ans. Les récréations d'après-midi et l'étude du soir. Le salaire est de... Nous sommes une institution privée, non religieuse. Est-ce que cela vous va ?
Bien, madame.
Bien. Vous allez venir avec moi voir le directeur pour votre contrat. Comme vous n'avez aucune expérience, je dirais que je vous connais un peu.
Merci, madame.
Ce n'est rien entre artistes. On peut s'entraider. Vous me ferez lire vos œuvres.
Bien, madame, mais elles sont bien modestes.
Il prend une feuille de papier et lui demande. Votre nom?
Charles-André Beaumandin.
Adresse?
Je m'en souviens plus. C'est un logement que je viens de prendre, excusez-moi.
Ce n'est pas grave. Nationalité?
Française.
Votre âge?
J'ai 25 ans. Elle sourit.
Jeune, très jeune.
Elle finit d'écrire, elle lui dit,
je vais tâcher de voir si le directeur peut vous recevoir.
Il a eu le temps de voir qu'elle avait une ligne jaune, mais avec un rien de femme mûre. Quel âge peut-elle avoir ? Il est incapable de pouvoir dire si elle est belle ou non. Son visage était toujours dans la pénombre.
La porte est ouverte.
Veuillez me suivre, monsieur.
Il se lève et va vers elle.
Il la suit, longe un long couloir. Elle lui dit,
nous avons de la chance, le directeur peut nous recevoir ce matin.
Elle va frapper à une porte.
Entrez.
Ils sont entrés.
Vaste pièce en forme de bureau, meubles en pierre. On y voit mieux, les fenêtres donnent sur la cour. Un homme gros, l'air jovial, chauve, dans les 55 ans, costume gris. Elle lui dit,
Monsieur le directeur, je vous présente Monsieur Charles André Beaumandin. Monsieur postule pour la place de surveillant pour les études du soir.
Le directeur leur dit, venez vous asseoir.
Charles-André n'ose pas regarder la femme qui est assise à côté de lui. Un quart d'heure plus tard, ils sortent du bureau du directeur. Charles-André est embauché. Dans le couloir, elle lui sourit.
Voilà, vous avez du travail et un salaire.
Il n'arrive pas à voir son visage. Le hasard veut qu'elle soit constamment à contre-jour.
Je vous remercie, madame, et lui dit. Ne m'appelez pas madame, mais Denise Sommet. Venez. Je vais vous accompagner. Vous vivez seul?
Non, avec ma sœur.
Comme c'est gentil. Tout membre de la famille?
Pas ici, mais à Lyon. Mon père s'occupe d'affaires immobilières. Elle lui dit.
Ça doit rapporter gros.
Ils arrivent vers la sortie.
Voilà, monsieur Charles-André. Non, vous devez m'appeler Denise. Ils vont devenir amis.
Elle lui tend la main. Il la prend et la trouve très douce. Elle ouvre la porte et il sort. Une fois dehors, il ne sait plus où il en est. En y arrivant chez lui, il dit la bonne nouvelle à sa sœur. Lendemain après-midi, il commence son travail. C'est pas bien difficile, les élèves ne sont pas très nombreux, ils se tiennent comme il faut. Ils sont tous issus de familles très riches, françaises ou monégasques. Comme Charles-André est jeune et fait plus jeune que son âge, au début les élèves l'ont pris pour l'un d'eux. Mais très vite, ils ont vu qu'il était un surveillant. Madame la proviseure vient souvent le voir pour voir si tout va bien. Elle a un côté maternel avec lui. Il trouve ses mains d'une douceur exquise et son odeur délicieuse, mais n'arrive pas à savoir son âge. Comme elle est souvent près de lui, il a des difficultés à avoir des rapports avec les autres membres d'enseignants. Un jour, un professeur d'histoire, un petit homme mince, sans âge, lui dit dans la cour,
c'est une sacrée femme.
Elle a eu deux maris, tous morts. Elle est menée à la baguette. Avec elle, un homme doit être à ses pieds.
Mais elle a quel âge?
Je ne peux pas vraiment vous dire. Elle dit qu'elle a 35 ans. Mais vu ses enfants, ça me paraît bizarre.
Elle a combien d'enfants?
Deux. Une fille et un garçon. Son mari était le proviseur. Une fois décédé, elle a endormi le directeur pour prendre sa place.
Une sacrée femme, proviseur. Ça ne s'est jamais vu.
Mais elle a un sacré caractère. S'il vous a la bonne, ça va. Mais autrement...
Après 15 jours de travail, Charles-André, qui se trouve obligé de penser à elle malgré lui, parce qu'il la voit constamment, n'arrive pas à se faire une idée sur elle. Elle est intelligente, semble bien connaître la littérature, douce, aimante, mais quel âge a-t-elle? Est-elle belle? Il ne peut vraiment le savoir. On dirait qu'elle fait tout pour être dans la pénombre.
et si elle ne l'est pas, une fine voilette voile son visage. Malgré tout, il se sent malgré lui attiré par cette étrange personne. Il se dégage en elle une sensualité très forte. Elle a, comme certaines personnes, un fluide qui vous attire en vous excitant. Pourtant, ces personnes qui ont ce pouvoir sont ni belles ni attirantes. Mais quelque chose de sexuel se dégage d'elles, hommes ou femmes d'ailleurs, et quel que soit leur âge. On ressent un désir sexuel plus fortement avec eux qu'avec des personnes plus belles et qui vous plaisent mieux. Denise a cette apparence sur Charles-André. Malgré lui, il est vrai que cela fait longtemps qu'il n'a pas eu de rapport avec une femme. Si sa sœur et lui n'étaient pas fâchés, peut-être que ça aurait été moins fort, ça aurait été moins attirant. Il est vrai aussi, c'est qu'elle va constamment le voir. Et lorsqu'il surveille les élèves, entre les cours, à l'étude du soir, elle a une façon de se toucher la manche qui ressemble étrangement à une caresse. Cela donne envie de la caresser. Le silence qu'elle met entre certains mots, la voix basse, ce qui rend intime la conversation, la façon dont elle tend la main et qui s'abandonne dans celle de Charles-André, et cette façon de dire « Au revoir, à demain, n'est-ce pas ?» Une façon douce et suppliante, comme si c'était pour un rendez-vous d'amour. Charles-André voit que les supérieurs rient sous cap, et les professeurs aussi. Elle lui demande durant la récréation « Que faites-vous lorsque vous ne travaillez pas ?»« Rien, je suis chez moi avec ma sœur. Vous restez donc chez vous ? Vous sortez donc jamais ?»« Non. Je dois... Il faut sortir, ce n'est pas bien de rester enfermé. Si vous vouliez, nous pourrions aller demain au théâtre assister à un récital. » Il répond, gêné, car il trouve qu'elle va un peu loin à la besogne. Il ne veut pas être la risée de ses collègues. Et puis, il ne la connaît pas vraiment. Quel âge a-t-elle? Et ses enfants? Il n'a pas envie de se lancer dans une aventure comme ça. Non, décidément, non. Je n'ai pas envie de sortir avec cette femme. Il lui répond, je vous remercie, mais je crois...
Oh, ne faites pas l'enfant, ne sommes-nous pas amis? Ne sommes-nous pas?
Oui, bien sûr.
Ah, vous voyez, vous avez de l'amitié pour moi. Alors, dites-moi oui.
Oui.
Oh, merci, mon ami.
Et il lui serre la main et lui dit,
je viendrai vous prendre après l'étude. Nous irons manger un petit quelque chose et avant d'aller au théâtre.
Et elle s'en va toute heureuse. C'est tout juste si elle ne lui envoie pas des baisers. Charles-André est furieux. Il n'a pas du tout envie de sortir avec elle. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette femme qui est plus vieille que lui et a deux enfants? Il se demande comment il a accepté. Comment a-t-il accepté son invitation? Elle a une façon de vous demander quelque chose qui vous empêche de lui refuser. Le soir, il rentre chez lui, retrouve sa sœur au salon,
et lui parle de l'invitation. Apolline lui demande « Une conquête ?»«
Pas du tout. D'ailleurs, c'est une femme qui a deux enfants. » Elle lui dit « Et tu sors avec une femme qui a deux enfants ?»
Juste pour cette fois, elle veut entendre un récital. Et comme elle sait que je ne sors jamais, elle a voulu me faire plaisir.
« Méfie-toi. Ce genre de femme cherche un homme pour les aider. »
J'ai pas la moindre intention de mettre
en ménage avec cette femme et ses enfants. D'ailleurs, elle sait que je n'ai pas d'argent.
Apolline lui dit. Mais notre famille, oui.
Et le lendemain, après l'étude, Denise vient le prendre. Elle s'est habillée d'un manteau rouge et robe verte. Charles-André est surprise de la voir comme ça, avec le rouge qu'elle s'est mis aux joues et sur les lèvres, il se dit qu'elle ressemble à une femme légère. Lui a mis un costume propre marine. Elle lui prend le bras et lui dit
« Venez !»
Elle le conduit fièrement. Il sent son bras tenu fermement, comme si elle avait peur qu'il s'éloigne. Il a l'impression qu'elle le tient prisonnier. Mais très vite, cette sensation se change en fierté et un peu désir. Parce que Charles-André est un jeune homme et comme tous les jeunes gens, il est fier malgré lui d'avoir été remarqué par une femme. Ils arrivent au théâtre. Elle a loué deux places au deuxième étage. La lumière tamisée, le décor. Ils se sont assis l'un à côté de l'autre. Sa robe serre bien sa taille et fait mettre en évidence une poitrine intéressante. Il sent son odeur.
Durant le concert, elle s'accroche à lui. Il sent son corps qui bouillonne ou s'émeut.
Elle a mis par mégarde sur son genou contre le sien. Elle le regarde ainsi. Lui n'ose pas la regarder et n'y tient pas. Mais il sent son corps contre le sien. Cela le gêne. Il se demande comment il peut supporter cela. Puis il est excité. Elle parle peu. Peut-être son corps s'exprime-t-il librement. Surtout qu'elle doit se sentir. Elle doit sentir que le sien, malgré lui, il répond. Il a honte, a peur d'être remarqué.
Bien, que dites-vous de cette musique-là?
Ces gens-là sont de braves cœurs.
Pur et sincère.
Capitaine, j'ai un message pour vous.
Excusez-moi.
Lorsque la lumière de l'entracte s'est allumée,
Il se dit qu'elle va sûrement mieux se tenir. Hélas, non. Elle continue à se serrer contre lui. Il a envie de lui dire qu'on les remarque, que pour une personne qui travaille dans l'enseignement, mais non. Elle lui dit, allons marcher dans le couloir. Il se dit, elle va sûrement mieux se tenir. Ouf! Ils se lèvent tous deux et vont marcher dans le couloir qui donne aux loges. Il y a du monde qui vont et viennent, parlent. Il lui a pris le bras et marche fièrement à ses côtés. Lui a honte. Un homme s'approche d'eux, grand, mince, cheveux abondants blancs, costume noir. Il salue et dit, bonjour Madame Sommet.
Bonjour Monsieur Vidon.
Il est rare de vous voir, c'est la première fois qu'on vous voit au concert. Est-ce à cause du programme qui vous a particulièrement plu?
Non, pas vraiment. Je sors peu, c'est à cause de ma famille et de mon travail qui m'accapare beaucoup. Mais cette fois, j'ai fait une exception à la règle. Mon ami Monsieur Charles-André Beaumandin, vous savez, les financiers de Lyon, viennent de débarquer à Monaco. Il ne connaît personne, alors il m'a demandé de l'accompagner ici.
Votre ami est à Monaco, et pourquoi faire?
C'est un artiste, il cherche des sensations. C'est un écrivain, comme moi.
Et elle lui serre le bras pour montrer qu'il est bien à elle.
Monsieur Vidon dit, j'espère que nous verrons monsieur un de ces jours à une de nos soirées.
Avec vous, madame, comme il va de soi.
Elle est toute fière et lui dit, merci monsieur, nous n'y manquerons pas.
L'homme la salue et il se retire.
Charles-André est furieux et se dit que tout le monde va penser qu'il est le petit ami de cette femme qu'il ne connaît même pas.
Elle lui dit, j'espère que c'est que nous ne sommes pas fâchés, de toute façon.
Il ne fait que dire la vérité, puisque c'est vous-même qui m'avez dit que nous étions amis.
Elle lui sourit et lui demande, n'est-ce pas que c'est vrai?
Oui, bien sûr.
Elle rit et il retourne à la place. Comme tout à l'heure, elle se blottit contre lui.
Dehors, elle lui demande, vous m'accompagnez, n'est-ce pas?
Vous, bien sûr. Elle lui serre le bras.
Chaque fois qu'il passe devant un couple, elle sourit.
Arrivée devant chez elle, un immeuble très quelconque, elle lui dit,
vous m'excuserez de ne pas vous faire monter chez moi, mais j'ai des enfants et je n'ai que 32 ans. Nous pourrais jaser.
Elle lui serre très fortement la main et avec des mouvements intimes, elle la lui caresse.
Cela lui donne envie. Elle lui dit, au revoir, à demain, n'est-ce pas?
Oui, elle entre dans son allée.
Je dirige chez lui, à grande enjambée.
Il se dit, c'est fini, fini. Non, jamais, plus jamais ça.
Je ne veux plus la voir en dehors du lycée.
Je dirais que je ne peux pas. Que je suis malade, que je n'ai pas d'argent.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.